parole, au nom de Jésus. Alléluia. Prêt à recevoir la parole de Dieu ce matin? Vous savez que la Bible est inspirée de Dieu, oui? Est-ce que tous les versets que nous allons voir sont les versets qui sont vraiment le souffle de Dieu? Quand la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu, ce mot inspiré veut dire littéralement souffler. C'est le souffle de Dieu. C'est Dieu qui nous parle. Donc, on va faire, qu'est-ce qu'on aime faire ici à la vie comblée? On aime faire une petite déclaration de la foi pour préparer notre cœur pour recevoir la parole de Dieu. Donc, si vous avez vous, je vous encourage à prendre votre Bible. Sinon, votre feuille va à presque tous les versets qu'on va voir ensemble aujourd'hui. On va dire ceci. Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de Dieu. Je ne serai jamais plus pareil. Mais je serai pour toujours changé. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Donc, Éphésiens chapitre 5. Et vraiment, le petit sketch qu'on vient de voir, ça va de près la série qu'on est en train de faire actuellement sur comment marcher avec Dieu. Vous savez, Dieu ne veut pas qu'on passe du temps avec lui seulement le dimanche matin, seulement le mercredi soir, ou seulement une fois par jour, le matin, une petite 10-15 minutes quand on va lire la Bible et faire une petite prière. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Il veut cheminer avec nous. Il veut être avec nous 24 heures sur 24 heures. En fait, la Bible dit que le Seigneur ne va jamais nous abandonner. Il ne va jamais nous délaisser. C'est pourquoi, comme vous voyez, à chaque fois que Stéphanie était prête à partir, Jésus allait avec elle, n'est-ce pas? Et c'est ça, je pense qu'on a besoin d'une révélation. On n'a pas le choix. On ne peut pas laisser Jésus à la maison, littéralement. Si on est vraiment né de nouveau, si Christ est en nous, peu importe où qu'on soit, il est là. Et je pense que ça, si on aurait une plus grande révélation de ce fait, ça changerait notre pas. Parce que je suis convaincu que Jésus a dû endurer bien des films qu'il n'a pas voulu voir. Amen. Il a dû assister à plein de chicanes entre mari et femme qu'il ne voulait pas assister. Est-ce que vous êtes d'accord? Si un chrétien fait quelque chose qui n'est pas correct, est-ce que l'Esprit de Dieu le délaisse? Non. Est-ce que l'Esprit de Dieu quitte la personne? Non. Mais l'Esprit est attristé, la Bible dit. On peut attrister l'Esprit de Dieu. Et ce n'est pas ça qu'on veut. On veut honorer sa présence. On veut en fait pratiquer sa présence. On veut être conscient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que Dieu est là, il est avec nous. Et que nous soyons dans nos magasins en train de faire l'épicerie, que nous soyons dans l'auto, que nous soyons au travail, que nous soyons sur le terrain de golf, ou je ne sais pas qu'est-ce que vous faites, sur le dos d'un cheval, ou n'importe où que vous soyez, Dieu est là. Et on peut jouir d'une communion avec lui. On peut avoir un meilleur match de golf. Moi, je ne joue pas au golf, mais si je jouerais, je dirais que je jouerais mieux peut-être en étant conscient que Dieu est avec moi, n'est-ce pas? Peu importe qu'est-ce que vous faites, je sais que vous allez travailler mieux, vous allez produire mieux au travail si vous êtes conscient de la présence de Dieu. Vous serez un meilleur mari et un meilleur père si vous étiez conscient de la présence de Dieu. N'est-ce pas vrai? Vous seriez un meilleur chrétien, une meilleure personne si vous étiez conscient de la présence de Dieu. Donc, on va voir encore aujourd'hui comment marcher avec Dieu. Et comme j'ai déjà expliqué, la raison pour laquelle j'ai commencé cette série, c'est parce que dans un temps de prière, il y a à peu près 6 semaines déjà, on priait, il y avait une phrase qui venait dans mon cœur continuellement. C'était « marcher par la foi, marcher selon l'esprit et marcher dans l'amour ». Marcher par la foi, marcher selon l'esprit et marcher dans l'amour. Et on a dit que si on va vraiment marcher avec Dieu, il faut marcher par la foi. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Vous êtes d'accord? Et la semaine passée, on a vu que si nous allons vraiment marcher avec Dieu, il faut marcher selon l'Esprit. Et si nous marchons selon l'Esprit, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir? C'est la troisième partie de qu'est-ce que j'ai reçu dans la prière, c'est que on va pas juste marcher par la foi, pas juste marcher selon l'Esprit, mais on va marcher dans l'amour. Et on va voir qu'il est impossible de marcher avec Dieu sans marcher dans l'amour. Éphésiens chapitre 5. Est-ce que c'est branché le micro ou non? Ça marche? OK. Ah, mais c'est tout. C'est que quelqu'un me faisait signe que le fil n'était pas correct. Là, c'est. On va s'arranger avec ça jusqu'au temps que nous avons en sans fil. Donc, Éphésiens chapitre 5, verset 1. On va lire ceci et en sachant que c'est vraiment la parole de Dieu. Éphésiens 5. Est-ce que tout le monde est là? Oui. Alléluia. Je vous encourage à prendre vos bibles et devenir vraiment les auditeurs qui sont prêts à mettre la parole de Dieu en pratique. Verset 1 d'Éphésiens 5 dit, « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité ou marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Devenez donc les imitateurs de Dieu. Ça, c'est quelque chose, n'est-ce pas? On vient de voir un petit sketch. Ils ont imité certaines choses. Sylvain a imité Jésus jusqu'à un certain point dans le petit sketch. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ici? C'est que nous, comme des enfants bien-aimés, nous appelés, commandés à imiter notre Père. Tel le Père, le Fils. C'est-à-dire que à chaque fois que les gens nous voient, ils devraient dire, « Ah, il me fait penser à son papa. » N'est-ce pas vrai? Quand les gens vous voient dans votre vie quotidienne, est-ce qu'ils disent « Il me fait penser à Dieu » ou « Elle me fait penser à Dieu » Est-ce que vous agissez comme Dieu? Est-ce que vous pensez comme Dieu? Est-ce que vous parlez comme Dieu? Vous dites « Oh, ça c'est du blasphème. » Non, ça c'est biblique. Est-ce que vous êtes là ce matin? C'est Dieu qui nous demande d'être un imitateur de sa nature et de son caractère. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ouvre ma bouche, qu'est-ce que je dis devrait être en ligne avec la nature de Dieu? À chaque fois que je fais quoi que ce soit, il faut que mon action soit en accord avec le caractère de Dieu. À chaque fois, 24 heures sur 24 heures. Tel le Père, tel le Fils. Comme il était dans ce monde, nous sommes appelés à être. Et comme c'est marqué dans vos notes, il est impossible de marcher avec Dieu sans marcher dans l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour est la nature de Dieu. Dieu est amour. Regardons 1 Jean chapitre 3, verset 14. Et ma prière ce matin, c'est qu'on puisse vraiment saisir et avoir une révélation de ces paroles. Pas juste une connaissance, parce que la connaissance enfre, mais l'amour édifie. Nous savons en effet que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque haït son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Ça, c'est fort, n'est-ce pas? En Jean 4, 7 et 8, dans vos notes, c'est marqué, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Donc, voyez-vous, marcher avec Dieu, c'est pas compliqué, c'est simple. J'ai pas dit que c'est facile, mais c'est simple. Si nous marchons dans l'amour, forcément nous marchons avec Dieu parce que Dieu est amour. Voulez-vous être un meilleur chrétien, une meilleure chrétienne? Voulez-vous avoir une vie qui est plus fructueuse? Voici comment le faire, marcher dans l'amour. C'est simple. La vie chrétienne est simple. Marchez dans l'amour et vous accomplirez toujours à 100% la volonté de Dieu. Si vous avez des questions, qu'est-ce que je devrais faire? Hein? Si vous avez deux choix devant vous, vous ne savez pas quoi faire, c'est facile. C'est simple, je veux dire. Marchez dans l'amour. Si qu'est-ce que vous faites, c'est par l'amour, vous ne faites pas la volonté de Dieu et vous ne marchez pas avec Dieu. Mais si ce que vous faites, c'est vraiment animé par l'amour divin, l'amour de Dieu, vous êtes en train de suivre son plan à 100%. La Bible dit en 2 Corinthiens chapitre 5 que l'amour de Dieu nous presse. L'amour de Dieu nous presse. Et ce mot presse, c'est vraiment, je pense que j'ai déjà partagé, c'est intéressant. Souvent, on dit, oh, je veux être dans le plein centre de sa volonté, je veux suivre le plan de Dieu pour ma vie, mais je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas par où commencer. Est-ce que Dieu veut que j'aille en Chine? Est-ce qu'il veut que je sois missionnaire? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse dans ma vie? C'est vraiment simple. Qu'est-ce qu'il veut que vous fassiez? Il veut que vous marchiez dans l'amour. Car l'amour de Dieu vous presse. C'est comme si vous avez un lacet de votre soulier qui est tout frisonné et vous voulez le mettre dans le trou pour lacer les souliers. C'est pas évident. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez déjà eu cette expérience? Parce que vous avez les brins du lacet qui vont dans tous les sens, dans toutes les directions, et vous n'arrivez pas à mettre le lacet au plein centre du trou. Vous êtes d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Si c'est pas trop dégueulasse, on met ça dans la bouche, on prend les doigts et on va presser. On va mettre un peu de pression pour presser tous les brins ensemble, twister ça un tout petit peu, et là, on est capable de mettre ça au plein centre du trou, et là, on a réussi. L'amour de Dieu nous presse. Et tous les domaines de notre vie qui vont dans tous les sens, là où on a de la confusion, on part à gauche et à droite. Quand on marche dans l'amour, ça va prendre tous les domaines de notre vie, ça va les presser ensemble et ça va nous aider à être mis directement au plein centre de son plan et de sa volonté. C'est l'amour de Dieu qui me presse. C'est l'amour qui m'amène à ma destination. C'est l'amour qui fait en sorte que ma foi va fonctionner. Savez-vous que la foi agit par l'amour? On a parlé de la foi. Mais la Bible dit qu'il y a trois choses qui vont rester pour l'éternité. C'est quoi ces trois choses? Hein? La foi, l'espérance et l'amour. Mais le plus grand de ces choses, c'est l'amour. Pourquoi? Parce que la foi agit par l'amour. Et, en fait, la foi agit aussi avec l'espérance. Donc, la foi et l'espérance sont dépendantes de l'amour. Si on n'a pas d'amour, la foi ne marche pas et on n'a aucun espoir. Donc, il n'y a rien de plus important. Laissez-moi vous dire que le message d'aujourd'hui, c'est le message le plus important pour la vie chrétienne. Il n'y a pas un autre message qui pourrait avoir plus d'importance que le message concernant l'amour de Dieu et l'importance pour nous de marcher dans son amour. C'est pas assez pour nous de dire, mais Dieu est amour. Et ça, c'est bon. C'est bien beau de savoir que Dieu est amour. Il y a des pécheurs même qui savent que Dieu est amour. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Il veut qu'on marche dans l'amour aussi. Pas juste constater, oui, Dieu est amour, et avoir un assentiment intellectuel en disant, ah oui, oui, je reconnais le fait que Dieu est amour. Mais il faut reconnaître aussi le fait que je suis né de Dieu. Et si Dieu est mon père, j'ai la nature de papa en moi. Sa nature, c'est ma nature. Et si Dieu est amour, je suis un enfant d'amour. Et je suis appelé à marcher dans l'amour. Et si j'aime pas, c'est parce que je connais pas Dieu. On va lire encore le verset qu'on vient de lire en Jean chapitre 3. C'est fort qu'est-ce qu'on a dit. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous avons une grosse Bible sous nos bras. Non, c'est pas ça? Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous assistons à l'Église 3 fois par semaine. C'est pas ça? Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous prions quotidiennement. Non, c'est pas ça non plus. Oh, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous prophétisons et nous exerçons un ministère. Oh, nous... Je suis vraiment perdu, là, hein? Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Oh, je sais, parce que nous travaillons comme bénévoles pour les organismes. C'est pas non plus? Wow! Oh, je sais, je l'ai maintenant. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que j'ai fini un cours d'études bibliques. C'est pas ça non plus, hein? Non, c'est pas compliqué, c'est vraiment simple. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons Dieu. Non. Je vous ai eu. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Wow! J'ai déjà entendu des personnes dire, « Oh, j'aime Dieu, mais je déteste les chrétiens. » Ça marche pas. Ça marche pas. Est-ce que vous avez entendu les personnes dire les choses de même? J'aime Dieu, mais je déteste l'Église. Ah, désolé. De toute évidence, vous n'êtes pas sauvés. Parce que nous savons que nous sommes passés de la mort spirituelle à la vie spirituelle parce que nous aimons les frères. C'est le test, c'est la preuve de la nouvelle naissance. Si nous nous aimons comme il nous a aimés, nous savons que nous sommes nés de nouveau. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit quiconque haït son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Lisons, c'est dans vos notes, mais c'est important, c'est un peu long, mais on va le lire. En Jean chapitre 15, qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples? Verset 9, Jean 15, 9. Jésus parle, il dit, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. » Déjà, c'est une bonne nouvelle, on pourrait fermer la Bible, s'en aller chez nous et dire, « Bon, on a eu vraiment une bénédiction, un bon message aujourd'hui, n'est-ce pas? » De la même façon que Dieu le Père a aimé Jésus, il nous a aimés. Dieu le Père a autant d'amour pour nous que pour Jésus lui-même. Et laissez-moi vous dire, c'est pas juste vous, c'est pour nous. C'est-à-dire que si Dieu aime Daniel autant qu'il a aimé Jésus, il m'aime autant qu'il a aimé Jésus, qui suis-je pour pas aimer Daniel autant? Qui suis-je pour dire, j'accepte son amour pour moi, mais j'accepte pas son amour pour Daniel? Est-ce que vous me suivez ce matin? Qui suis-je pour dire que c'est bien correct? C'est comme on a parlé aujourd'hui dans notre cours avant l'assemblée du pardon. C'est bien facile. Nous voulons tous être pardonnés. Mais Jésus a dit de prier, hein, pardonnez-nous comme nous avons pardonné les autres. De la même façon que nous avons pardonné les autres, c'est comme ça que Dieu va nous pardonner. Et c'est bien facile, nous voulons accepter son pardon et le sacrifice de Jésus pour nos péchés, mais est-ce que nous sommes prêts à accepter le sacrifice de Jésus pour les péchés de quelqu'un d'autre? Savez-vous que qu'est-ce qu'on veut souvent, on l'a dit ce matin, on veut, si quelqu'un nous fait tort, on veut voir l'autre personne souffrir, au moins un petit peu, vous êtes d'accord? C'est pourquoi on va dire, ben oui, je vais pardonner, mais je vais attendre un petit peu, quelques jours, une semaine, juste laisser ça mijoter un petit peu pour qu'il puisse souffrir. Est-ce que j'ai raison ou non? Mais c'est pas comme ça que ça marche. Hein, comme à l'école, à la maternelle, où mon fils John, il va à la maternelle, et son prof dit toujours, quand les enfants font quelque chose, « Non, non, c'est pas comme ça! » Et toute la classe dit ça en même temps. OK? Donc, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas une question de dire, j'aime Dieu, mais je déteste mes frères et mes sœurs. Lui, je peux pas supporter sa face. Non. Tout le monde dit, non. C'est pas comme ça. Nous aimons Dieu, oui. Mais si nous voulons vraiment manifester l'amour de Dieu, il faut qu'on aime nos frères et nos sœurs dans le Seigneur aussi. Alléluia. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous. Voulez-vous avoir de la joie? Et que votre joie soit parfaite. Voici la recette pour la joie parfaite, c'est de marcher dans l'amour. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner, soulignez le mot donner, sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce qu'il fait son maître, mais je vous ai appelé ami. Combien de vous voulez être ami de Dieu? Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Donc, votre vie de prière dépend de votre marche d'amour aussi. Voulez-vous recevoir dans la prière? Marchez dans l'amour. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ça va de pair avec Éphésiens 5:1. Devenez donc les imitateurs de Dieu et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, si on veut faire la volonté de Dieu, il faut qu'on s'aime comme il nous aime. Ça suffit pas de dire, « Oh, mais je l'aime, Seigneur. Je l'aime. Tu sais que je l'aime. » Des fois, c'est facile de dire, « Oh, oui, tu sais que je l'aime. Mais je veux rien savoir. » Hein? Hein? Tout le monde dit, « Non, non. C'est pas comme ça. » Alléluia. Alléluia. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Éphésiens 5 a dit, dans la parole vivante, c'est marqué, comme des enfants imitant leur père, vous de même, enfants bien-aimés de Dieu, suivez en tout point son exemple, que votre suie soit régie par l'amour, agis comme le Christ qui vous a tant aimé qu'il s'est offert en sacrifice à Dieu pour vous comme une véritable dont le parfum plaît à Dieu. Donc, qu'est-ce que nous avons? C'est la deuxième chose que vous allez remplir dans vos notes, c'est que si nous allons marcher à l'exemple de Christ, il faut que nous soyons prêts à donner notre vie. Aimer égale donner. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et puis, il a dit tout de suite après, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc, si on ne donne pas, on n'aime pas. Est-ce que c'est vrai? On peut bien, c'est bien beau de dire, oh, j'aime telle personne, j'aime Dieu, mais si on ne donne pas, on n'aime pas. Aimer égale donner. Tout le monde dit aimer égale donner. Si on aime quelqu'un, on va donner. Et qu'est-ce qu'on va donner? On va donner notre vie. Est-ce que ça veut dire qu'il faut mourir pour tout le monde, physiquement? Pas forcément. Mais il faut être prêt à donner toute notre vie. C'est quoi notre vie? Ça comprend notre temps, n'est-ce pas? Les 4 T. Vous vous rappelez des 4 T? Temps, talent, trésor et temple. On va le dire encore. Notre temps, nos talents, nos trésors et notre temple, ou notre corps même. Et des fois, c'est nécessaire de donner notre corps. Des fois, il y a des personnes qui sont mortes physiquement pour le Seigneur et pour les autres. Ça, c'est une chose. Mais est-ce qu'on est prêt à donner de notre vie? Est-ce qu'on est prêt à donner du temps à ceux que nous aimons? Est-ce que nous sommes prêts à donner nos talents pour servir avec... comme j'aime ça voir de plus en plus les membres de l'Église qui viennent travailler ici, qui donnent de leur temps, ils donnent leur talent pour servir le Seigneur. Mais pas juste à l'Église. Je vois ça souvent entre vous. Vous entraidez. C'est bon, n'est-ce pas? Ça, c'est l'amour. C'est facile de dire « je t'aime ». Mais la Bible dit qu'il ne faut pas juste aimer en parole, mais il faut aimer en parole et en action aussi. 1 Jean, en fait, on va lire ce verset. 1 Jean, chapitre 3, verset 16 à 18, c'est dans vos notes. Nous avons connu l'amour de Dieu en ce qu'il a donné. Comment est-ce que nous avons connu l'amour? Dieu a donné. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a donné. Aimer égale donner. Et c'est pas juste de l'argent. C'est du temps, des talents, du trésor, oui, et aussi de notre temple. Nous avons connu l'amour de Dieu en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour qui? Pour les frères. Wow! Réfléchissons un petit peu. Est-ce que nous sommes vraiment en train de donner notre vie pour nos frères? Et moi, je parle à moi-même ce matin. Je sais que j'ai encore de route à faire. je pense que j'ai fait du progrès dans ma marche d'amour, mais quand je vois la grandeur de Dieu et la profondeur de son amour, je me suis rendu compte que j'ai encore beaucoup de route à faire. Et vous? Oui, je donne de mon temps. Oui, je donne de mon trésor. Oui, je donne mes talents. Et je suis prêt à donner toute ma vie pour le Seigneur. Mais suis-je prêt à donner ma vie, pas juste pour le Seigneur, mais pour mes frères et mes sœurs? Ça, c'est une bonne question, n'est-ce pas? Alléluia. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Alléluia. On a besoin de s'aimer. Encore, attention, parce que vous savez-vous, je sais une chose, il y a certaines personnes qui peuvent aller dans un extrême. Il y a des personnes qui sont dépendants affectifs, ou d'autres personnes qui ils veulent qu'on donne et qu'on donne et qu'on donne, mais ce n'est pas d'une façon saine. Dans le fond, on ne les aide pas. Est-ce que vous êtes d'accord? Et Jésus a dit aussi qu'il faut être sage comme les serpents. Dieu a dit aussi qu'il ne faut pas lancer nos perles devant les pourceaux non plus. Et la Bible dit qu'il faut porter les fardeaux les uns les autres, mais dans le même chapitre de Galates, chapitre 6, la Bible dit que chacun doit porter son propre fardeau. Donc, ce n'est pas une question si quelqu'un ne veut pas travailler, si quelqu'un ne veut pas prendre soin de lui-même ou de sa famille, ce n'est pas ma responsabilité de toujours venir en secours. Vous êtes d'accord? La Bible dit que celui qui travaille, mange. N'est-ce pas vrai? Donc, ce n'est pas une question de dire, bon, mais je vais juste donner tout n'importe qui, à n'importe qui, n'importe quand. Il y a une sagesse aussi. Et des fois, qu'est-ce qui serait encore mieux pour la personne? Au lieu de lui donner un poisson, c'est de l'enseigner à aller à la pêche. Et si la personne ne veut pas aller à la pêche, des fois, l'amour, la meilleure chose qu'on pourrait faire pour marcher dans l'amour avec cette personne, c'est de dire, bon, mais écoute, je suis prêt à aller avec toi pour t'enseigner à aller à la pêche. Mais si tu ne veux pas, il va falloir que tu passes quelques semaines avec un petit creux. Amen. Et quand vous aurez assez faim, peut-être vous allez changer d'idée. Amen. Des fois, l'amour est tough aussi. Donc, quand je dis il faut aimer tout le monde, c'est pas juste « Oh, j'aime. » C'est pas comme Stéphanie qui dit « Oh, j'aime Jésus. » C'est plus facile à dire. Mais est-ce qu'elle est prête à amener Jésus avec elle et de honorer sa présence 24 heures sur 24? C'est notre histoire. Donc, encore, est-ce que vous voyez qu'est-ce que je dis là? Il y a un équilibre. On aime tout le monde. On est prêt à donner notre vie pour tout le monde. Mais en même temps, je ne suis pas prêt à donner ma vie d'une mauvaise façon. D'une façon malsaine. Amen? Si quelqu'un est malade, ça ne va pas aider le malade si je tombe malade avec. Moi, je vais rester en santé. Moi, je vais rester fort et je vais pouvoir aider. Et si la personne veut sortir du problème, tant mieux, je vais l'aider à en sortir. Laissez-moi vous dire, ça m'est déjà arrivé, il y avait une personne sans abri, une femme que Tania et moi, on a vu, c'était plein hiver à Saint-Louis, cette femme qui avait à peu près 80 ans, sa fille était avec elle, 30 ans, et on était émus de compassion, on voyait deux sans-abri, qu'est-ce qu'on va faire? On arrête, on parle avec la personne, ils n'avaient rien à manger, ils n'avaient pas une place pour se coucher, donc on est allé avec eux, les acheter des choses dans l'épicerie, acheter plusieurs sacs de nourriture pour eux autres, et mon intention, c'était de les amener à une place, une maison où ils pourraient avoir un lit pour la nuit. Donc, on a fait l'épicerie, mais j'ai remarqué tout de suite, ils n'étaient pas tellement reconnaissants. Dans le fond, ils s'étaient dit, mais moi, j'aime pas ça, j'aimerais mieux avoir ça, et ça, et ça. Et finalement, on appelle une place qu'on connaissait, une maison chrétienne qui recevait les sans-abri. Et puis, je commençais à expliquer la situation. Je disais, attends une minute. Est-ce que c'est une madame qui a à peu près 80 ans, une fille qui a une trentaine d'années? Oui. Elle, on ne prenne pas. Je dis, tu ne la prennes pas? Comment ça? Parce qu'on la connaît déjà depuis des années. On a déjà loué les appartements pour elle, mais à chaque fois qu'on loue les appartements, elle abandonne les appartements. Et je dis, pas vrai. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas laisser cette femme de, il neige, elle va mourir, hein? qu'est-ce qu'on va faire? Mais elle a dit, je ne peux pas la prendre. J'ai appelé une autre place. L'autre place connaissait la personne aussi. Donc là, tellement, on était toujours à l'épicerie. On est allé s'asseoir à la table et j'ai commencé à expliquer la situation. Il n'y a personne qui veut vous prendre. Oui, mais j'ai froid. Il faut que j'aille quelque part. Je ne peux pas rester dehors. Mais j'ai expliqué, mais eux autres ont déjà loué les appartements. Ah oui, c'est parce que moi, j'aime vivre dans la rue en été. J'aime ça, je veux pas avoir la responsabilité de prendre soin d'un appartement tout l'été. J'aime ça vivre dans la rue en été, mais pas en hiver, il fait trop froid. Mais j'ai dit, c'est comme un package deal, hein? C'est tout le kit, ça vient ensemble. Si vous vivez dans la rue en été, il faut savoir que dans quelques mois, l'hiver s'en vient. Donc, finalement, l'histoire courte. J'ai trouvé une place qui était d'accord à prendre les deux personnes pour une nuit et puis ils étaient pour jaser avec elles. Mais savez-vous qu'on n'a pas une obligation de donner notre vie pour une personne qui n'est pas prête à faire sa part? Est-ce que vous êtes d'accord? Mais d'un autre sens, s'il y a des personnes qui sont vraiment dans le besoin, comment est-ce qu'on peut dire que l'amour de Dieu est à nous si on dit « Oh, mais allez-y, soyez réchauffés, soyez bénis, car nous avons de quoi » satisfaire leurs besoins. Si nous fermons nos entrailles, si nous disons non à la compassion, comment est-ce qu'on peut dire que l'amour de Dieu est en nous? Donc, il s'agit de trouver l'équilibre et de marcher dans la sagesse de Dieu. Amen? Marchons dans l'amour de Dieu. Comment? À l'exemple de Christ. Donc, je veux juste vous donner quatre choses pour terminer aujourd'hui. Quatre choses, quatre pensées qui vont nous aider, des choses pratiques pour marcher à l'exemple de Christ. Numéro 1, si on va aimer les autres comme Dieu nous a aimés, comme Jésus nous a aimés, il va falloir suivre l'exemple de Jésus et aimer, numéro 1, sans condition. Quand Jésus nous a aimés, il n'a pas mis des conditions. Et encore, voici le problème. Le monde a une définition de l'amour qui n'est pas forcément la définition de Dieu. Quand on parle de l'amour, il y a deux genres d'amour dans la Bible. Il y a l'amour agapé, ça c'est l'amour de Dieu, ça c'est un amour qui est sans unique. Peu importe qu'est-ce que l'autre personne fait, je vais l'aimer toujours jusqu'à la fin. Amen. Il y a aussi un amour réciproque qu'on appelle philéo. Ça c'est vraiment plutôt une amitié. Toi tu fais quelque chose qui me fait plaisir, moi aussi en retour je vais faire quelque chose qui va te faire plaisir. Et on bâtit les sentiments d'amour de cette façon. Mais le vrai amour de Dieu, l'agapé, c'est pas une émotion, c'est pas un feeling. Le vrai amour de Dieu, c'est une décision. Tout le monde dit l'amour est une décision. Je prends une décision d'aimer les gens. Je prends une décision d'aimer ma femme, mes enfants, mes frères, mes sœurs, et même d'aimer les non-croyants. Je prends une décision d'aimer. Mais aimer ne veut pas toujours dire de faire plaisir, de donner des petites gâteries ou de faire tout ce que la personne veut qu'on fasse. Amen? Des fois, l'amour est tough. Quelqu'un, un parent qui est un adolescent qui va faire des gaffes, hein, des fois, il faut être tough en disant, écoute, si tu fais ça, tu n'as plus le droit de rester sous le toit. Amen? Si tu ne suis pas les règles, mais tu ne m'aimes pas. Oui, je t'aime assez pour te montrer la porte. Amen? Je t'aime assez parce que je sais que ça va aller mieux pour toi si tu pourrais apprendre tout de suite les conséquences de tes actions. Si je ne t'aime pas, je vais te laisser aller, faire qu'est-ce que tu veux, quand tu veux, avec qui que tu veux, si je ne t'aime pas. Amen? Mais le vrai amour, c'est comme ça que Dieu agit avec nous. En fait, l'apôtre Paul a dit à quelques personnes, c'est mieux de les abandonner, la Bible dit. Si tu lis ça en Corinthiens chapitre 5, Paul a dit qu'il y avait certaines situations, il avait besoin de comme laisser la personne aller entre les mains de Satan pour que le corps soit détruit, pour que son âme, à la fin, pourrait être sauvée. Amen? Donc, je voulais juste dire que quand je dis « aimons-nous les uns les autres », c'est pas toujours « oh, je t'aime, je vais te flatter ». Des fois, c'est tough aussi. Mais on fait tout notre possible pour donner notre vie. Mais
aimons sans condition. Voici le verset que j'avais à cœur. Matthieu 5, 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent et faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Verset 46, c'est fort. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc, qu'est-ce que le Seigneur veut nous communiquer là? C'est que on n'a pas le droit de dire, j'aime telle personne, mais lui ne fait pas mon affaire, je l'aime pas. Lui j'aime pas. La Bible dit qu'il faut aimer, agaper, sans condition. On aime tout le monde. Amen? Ah, mais lui, oh, ou elle, oh. Non, non, c'est pas comme ça. Numéro 2, aimer sans condition. Et numéro 2, aimer sans limite. Quand Jésus nous a aimés, il nous a aimés sans condition. Quiconque croit en lui sera sauvé. Quiconque. C'est-à-dire que si Saddam Hussein veut être sauvé, il peut être sauvé. Amen. Quiconque. Mais aussi sans limite. Ce n'est pas juste des choses. Jésus n'est pas venu en disant, « Oh, je t'aime, je t'aime. » Jésus est allé jusqu'au bout. Il nous a aimés sans limite, jusqu'au point de laisser couler son sang sur la croix. Jusqu'au point de se laisser séparer d'avec le Père, où il a crié, « Oh, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Il a expérimenté la mort spirituelle dans le sens d'être séparé d'avec le Père. Il sait c'est quoi de vivre l'enfer. Il a aimé sans limite. Il n'a pas dit, Seigneur, il n'a pas dit, Père, je vais aller me laisser fouetter, mais après ça, c'est fini. Je vais pas plus loin que ça. Je vais aller me laisser taper, mais après ça, c'est fini. Non, il s'est laissé clouer à la croix. Il a resté là jusqu'au bout. C'est pas juste ça. Il était séparé d'avec le Père. Il est descendu aux enfers. Il a souffert pour nous, spirituellement, émotionnellement et physiquement. Il n'y avait pas de limite à son amour. Et Dieu nous appelle à nous aimer comme il nous a aimés. Est-ce qu'on est prêt à faire ça? Surnaturellement, oui. La Bible dit, en fait, Éphésiens 5, verset 26, « Marie, aimez vos femmes. » Comment? Comme Christ a aimé l'Église, et il a fait quoi? Et il s'est livré lui-même pour elle. La preuve de l'amour de Dieu pour son peuple, c'est que Jésus est mort pour nous. Il a donné sa vie. Si je veux prouver à ma femme que je l'aime, je vais donner ma vie pour elle. Pas juste physiquement. Mais c'est-à-dire que ma volonté doit céder à sa volonté. Pas qu'est-ce que je veux. Comme Jésus a prié dans le jardin, « Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. » Si j'aime quelqu'un, je vais laisser mourir mes désirs, qu'est-ce que je veux, pour suivre le plan de Dieu. Amen. Est-ce que vous croyez que Jésus voulait mourir sur la croix? Hein? Physiquement, émotionnellement? Non, il avait besoin de prendre une décision. L'amour est une décision. Il a pris une décision de aimer sans limite. Numéro 3, aimer sans crainte. Voici un verset qui est fort, fort, fort. 1 Jean 4, 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. Afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Comme on dit, celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, Comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Mais voici une clé que nous avons besoin de saisir. Si nous voulons marcher dans l'amour, à l'exemple de Christ, il ne faut pas marcher dans la peur ou la crainte. La crainte n'est pas dans l'amour. En fait, l'amour parfait de Dieu bannit la crainte. C'est quoi qui nous empêche de marcher dans l'amour 9 fois sur 10? C'est la peur, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas pardonner quelqu'un? Parce qu'on a peur qu'il va encore nous blesser. N'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas aider quelqu'un, donner? Si quelqu'un est dans les besoins et on a les moyens financiers pour aider la personne, pourquoi est-ce qu'on ne veut pas aider? Parce qu'on a peur qu'on va manquer nous-mêmes. N'est-ce pas vrai? Si on a peur de donner, on ne peut pas aimer. C'est pourquoi il faut savoir, hey, l'amour parfait de Dieu bannit la crainte. Si j'aime quelqu'un qui est perdu, si le Seigneur amène un non-croyant sur mon chemin, une personne qui est destinée à passer l'éternité à l'enfer, dans la souffrance, dans les flammes du lac du feu, et le Seigneur le fait venir pour me rencontrer, il ouvre une porte et il me donne une occasion favorable, c'est quoi la meilleure chose que je pourrais faire pour cette personne? Qu'est-ce que je peux lui donner? Je peux lui donner l'amour, mais je peux lui donner mon témoignage et je peux lui donner la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que je pourrais hésiter? Des fois, la peur, la crainte va dire, mais qu'est-ce qu'il va dire? Peut-être il va me rejeter. Qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce qu'il va être fâché? Est-ce qu'il va se moquer de moi si j'ouvre ma bouche et je parle de Jésus? La peur va m'empêcher de donner. Qu'est-ce que j'ai besoin de donner? Vois-tu, dans le fond, aimer, c'est donner ce dont la personne a vraiment besoin. Pas forcément qu'est-ce que la personne veut, mais qu'est-ce que la personne a vraiment besoin. Aimer, c'est donner qu'est-ce que la personne a vraiment besoin. Si la personne a vraiment besoin d'être sauvée, si je marche dans l'amour avec cette personne, je vais ouvrir ma bouche et je vais témoigner même si la personne me rejette. Amen? Et si quelqu'un a besoin vraiment d'argent, je devrais donner de l'argent, même si je ne sais pas comment je vais faire moi-même. Si le Seigneur met dans mon cœur de le faire, je devrais le faire par la foi. Mais peut-être il n'a pas vraiment besoin d'argent. Peut-être il a besoin d'enseignement. Peut-être il a besoin d'encouragement et de l'aide pour aller chercher un emploi lui-même. Aimer, c'est donner ce que la personne a vraiment besoin. Alléluia. Donc, aimer sans crainte. Et numéro 4, aimer sans fin. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Aimer sans fin, ça veut dire quoi? Combien de fois est-ce que j'entends des personnes dire, les couples qui viennent me voir en disant, mais moi, on veut se divorcer parce que je l'aime plus. Est-ce que vous avez entendu les histoires de même? Je l'aime plus. J'ai aucun amour pour lui. J'ai plus d'amour pour cette personne. C'est fini, c'est fini. Ma question, est-ce que vous êtes sauvé? Parce que si vous dites que vous n'avez plus d'amour pour une personne, forcément, ça veut dire que vous n'êtes pas sauvé. Oh. Et le problème, c'est qu'ils ont mal compris la différence entre l'amour agapé et l'amour filéo. Parce que si un chrétien dit que j'ai plus d'amour pour lui, ça se peut pas, c'est impossible, parce que Romains 5:5 dit que l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur. Et son amour, c'est un amour sans condition et sans fin. Et l'amour de Dieu, l'amour agapé, c'est une décision. Et on peut prendre une décision d'aimer une personne malgré les émotions. Vous êtes d'accord? Filéo, c'est différent. Filéo, c'est réciproque. Et c'est vrai, moi, je comprends, une personne peut dire que moi, j'ai plus d'amour filéo, j'ai plus de feeling, j'ai plus de sentiments, j'ai plus d'émotions. Et ça, c'est vrai, hein? Ça, je comprends. Mais le fondement sur lequel chaque relation doit être bâtie, c'est l'agapé, l'amour inconditionnel de Dieu qui est sans fin. J'aime et je vais continuer à aimer. Il n'y a rien que vous pouvez faire. Vous vous rappelez de Pasteur Larry Willoughby qui est venu l'autre semaine? Il dit une chose souvent, il dit « Je vous aime et il n'y a rien que vous pouvez faire pour arrêter ça. » Je vous aime et il n'y a rien que vous pouvez faire pour changer cela. « I love you and there's nothing you can do about it », il dit en anglais. Je vous aime, il n'y a rien que vous pouvez faire pour changer ça. Et c'est ça qu'on devrait avoir pour nos enfants et pour nos frères dans le Seigneur. Il n'y a rien que vous pouvez faire qui va me faire en sorte que je vais arrêter de vous aimer. Je vous aime, c'est réglé, point final, et je vais vous aimer pour éternité. Alléluia! Est-ce que c'est-à-dire que je vais aimer tout ce que vous faites et je vais aimer et apprécier toutes vos actions? Non! Mais je prends une décision quand même de vous aimer avec l'amour, l'agapé de Dieu. Et si j'aime Dieu, il faut que j'aime mes frères et mes sœurs. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, sans condition, sans limite et sans fin. Comment on dit sans condition? Sans limite et sans fin. Ça, c'est l'amour de Dieu. Alléluia. Et sans crainte aussi. Merci. On va se lever debout, on va prier aujourd'hui. Alléluia. Merci, Père Céleste. Est-ce que vous avez reçu quelque chose aujourd'hui? C'est vraiment c'est juste de la bonne nourriture à méditer. Ça va prendre du temps à digérer même. Mais posez-vous la question. Est-ce que actuellement, vous marchez dans l'amour comme Dieu veut que vous marchiez dans l'amour? Est-ce que vous aimez vos frères comme Dieu vous a aimé? Si vous aimez vraiment, vous n'aurez pas d'amertume, vous n'aurez pas de rancune dans votre cœur. Et j'aimerais juste qu'on prenne un peu de temps, avant un peu de musique douce, on va prier ce matin. Parce que c'est important. Moi, je veux faire la volonté de Dieu, et vous? En tant qu'individu, en tant que pasteur et en tant qu'église locale, je veux faire la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu veut plus que toute autre chose? Il veut que je marche dans l'amour. Il veut que vous marchiez dans l'amour. Il veut que cette église soit reconnue comme une église qui marche dans l'amour. Et dans vos notes, même à la maison, vous pouvez lire, j'ai mis dans la version Parole vivante, 1 Corinthiens 13, 4 à 7, ça serait une bonne chose pour vous à méditer et à déclarer à tous les jours toutes les caractéristiques de l'amour divin, l'amour de Dieu. Alléluia. On va prier ce matin. Oh Père Céleste, merci. Seigneur, tu nous as tant aimé que tu nous as donné ton Fils unique. Aimer égale donner. Et aimer, c'est donner ce que la personne a vraiment besoin. Donc Seigneur, merci que tu vas nous aider à sonder notre cœur ce matin. Montre-nous là où on a manqué dans notre marche d'amour. Montre-nous, Seigneur, s'il y a des ajustements, des réglages à faire. S'il y a des personnes dans notre entourage qu'on a besoin de pardonner comme tu nous as pardonné, aide-nous à le faire tout de suite, Seigneur. On veut marcher dans l'amour à l'exemple de Jésus-Christ. On veut être les imitateurs de Dieu, comme les enfants bien-aimés, qui sont prêts à donner leur vie, leur temps, leur talent, leur trésor et leur temple, au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Père Céleste. Avec tous les yeux fermés, j'aimerais juste savoir s'il y a par chance une personne ici présente qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur Jésus. Peut-être vous êtes ici, vous dites, vous croyez en lui, vous croyez que Jésus est mort sur la croix pour vos péchés, vous croyez qu'il est ressuscité des morts. Mais vous n'êtes pas certain à 100% d'avoir la vie éternelle. Vous n'êtes pas sûr et certain d'avoir une place déjà réservé pour vous au ciel. Si vous êtes ici et vous êtes dans l'incertitude, je vous invite ce matin à faire un pas de la foi. Parce que la Bible dit que si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, que tu seras sauvé. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec tous les yeux fermés qui lèverait la main en disant, moi j'ai besoin de donner ma vie au Seigneur Jésus ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un? J'ai besoin de savoir sans aucun doute que Jésus est mon Seigneur et mon Maître. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lève la main? Alléluia. Peut-être qu'il y a d'autres personnes que vous avez besoin d'autres choses aussi, mais ce matin, le Seigneur est là pour nous rencontrer. Mais j'aimerais qu'on fasse une prière ce matin ensemble, pour qu'on puisse se consacrer à marcher davantage dans l'amour. Comme Paul a dit aux Thessaloniciens, même si vous savez ces choses, même si vous avez déjà de l'amour fraternel, il a dit qu'il voulait qu'ils abondissiez de plus en plus dans l'amour. On peut toujours grandir dans l'amour. On peut toujours marcher davantage dans l'amour. Car l'amour de Dieu est insondable. Donc, prions cette prière ce matin. Père Céleste, merci que je suis né de nouveau. Je suis ton enfant. Tu es mon Père. J'ai ta nature en moi. L'amour de Dieu a déjà été répandu dans mon cœur. Ton amour est en moi. Ton amour agapé. Et je prends une décision de t'aimer et d'aimer mes frères et mes sœurs. Merci de ton aide. Je vais aimer sans condition. Je vais aimer sans limite. Je vais aimer sans fin. Et je vais aimer sans crainte. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va juste faire un autre chant.